ce soit le Saint-Esprit qui m'inspire tout ce que je dois dire. Bienvenue à tous. Saint-Esprit, nous t'invitons vraiment ce matin à venir à la fois ouvrir nos cœurs et à me mettre les mots en bouche. Amen. Ce matin, j'ai quelque chose, c'est un message qui finalement peut se libeller de façon très simple, mais je vous expliquerai que ce titre a de provocateur, c'est de dire « Qui est mon prochain ?» Qui est mon prochain ? Alors j'ai quand même choisi de vous écrire aussi sur un tableau les mots clés pour que vous ne les oubliez pas. Là c'est un peu long, oui. Donc le titre, comment savoir qui est mon prochain ? Comment savoir qui est mon prochain ? Et je peux tout de suite vous rassurer, on pourrait presque terminer et dire, je ne pourrais pas vous le dire. Pourquoi ? Parce que Jésus ne l'a pas dit. Jésus n'a pas dit à qui ? À l'homme de loi qui l'interrogeait. Et donc ça nous ramène à l'histoire centrale où on parle beaucoup du prochain finalement, mais ce n'est pas vraiment le thème, à mon avis, de cette parabole qu'on appelle parabole du Samaritain. Je fais exprès de ne pas mettre bon samaritain, parce que là on rentrerait dans ce que j'appelle un aspect des Écritures qui peut être gênant, parce que c'est une histoire très connue, vous êtes d'accord que le bon samaritain, même des gens qui n'ont jamais vu la Bible, savent ce que ça veut dire. Mais ça propage une idée fausse, c'est celle que le samaritain était quelqu'un de sympa, un mec vraiment qu'on voudrait rencontrer, le bon samaritain, quoi, le chic type. Et donc, le grand défi que j'ai eu pour vous dire, bon voilà, pour répondre à cette question, c'est de dire, est-ce que on doit vraiment avoir une lecture traditionnelle ? Dans ce cas-là, bon, c'est vite fait. On va raconter une gentille histoire, une historiette, et puis bon, très bien, tout le monde rentre chez soi, mais personne n'a rien su. Et je vais vous emmener dans quelque chose qui est plus délicat. C'est ce que j'appellerais le paradoxe. Pas de Jésus, mais aussi de Jésus, c'est-à-dire les paradoxes qu'on a dans la parole. Parce que la parole, elle est pleine de paradoxes. Donc là, il y a un premier mot qu'on va mettre, c'est le mot paradoxe. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas intellectuel, hein, mais il y a quand même des mots qu'on est obligé d'utiliser. Sinon, on est obligé de prendre des phrases très longues, on appelle ça des périphrases. Bon. Donc, est-ce que personne n'a de difficulté avec le mot paradoxe ? Alors je vais quand même vous l'expliquer. Donc, un paradoxe, c'est quand il y a une vérité qui finalement dérange par rapport à le sens commun. Comme si elle était contraire à l'idée reçue, quoi. Mais croyez-moi, dans la Bible, on n'a pas le temps maintenant, mais ça vaudrait peut-être le coup, un bel exercice de voir tous les paradoxes qu'il y a dans la parole. Des choses qui disent le contraire à un moment donné, évidemment. Du coup, il y a des gens qui sont les partisans de cette version et les autres les partisans de l'autre. Et Jésus, toujours le partisan des deux. Donc, j'ai dit tout à l'heure que c'était un texte qui se trouvait, enfin, disons, le texte qui est un peu à la base de la discussion, qui est mon prochain, il est dans ce passage de Luc 10, 25 à 31, ou 34. Et je crois que ça vaut le coup peut-être de l'afficher si on peut. Est-ce qu'on peut l'afficher dans la version, une version, bon, disons, qui date de ce siècle quand même. Alors je l'ai là, je crois que je l'ai mis en gros chez moi. donc, avant de vous parler de cette histoire, j'aimerais quand même vous dire que le mot prochain, ça c'est une curiosité peut-être que certains n'ont pas, c'est de dire combien de fois on parle de ça. Mais moi je me rappelle que certains de mes maîtres disaient, quand un mot n'est qu'une fois dans la Bible, par rapport à, je dirais, une façon d'agir ou une importance de ce qu'il y a derrière, c'est une petite collinette. Si par contre cette notion qui est développée par un mot ou par une notion, si elle est tout le long de la parole, ça veut dire que c'est un des sommets de fond. Le mot amour et l'amour de Dieu, si vous voulez, ça, c'est les grandes montagnes couvertes de neige qu'on voit de partout. Par contre, porter un voile, vous êtes d'accord, c'est une colline qu'on ne voit peut-être pas à certains moments. Et pourtant, il y en a certains qui en ont fait une montagne. Donc, là, on a quoi comme mot ? C'est le mot prochain. Le mot prochain, alors je reviendrai sur le mot paradoxe, évidemment. C'était juste pour vous les mettre en tête, pour savoir qu'on a un cheminement. Et ce cheminement, je demande vraiment au Saint-Esprit qu'il vous permette, il nous permette d'atteindre notre cœur et d'atteindre notre conscience. C'est ça le but. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais croyez-moi, ça suffit. Une demi-heure, oui, c'est bon. Donc, le chemin pour aller à notre cœur et à notre conscience, il passe évidemment par un certain nombre d'informations, de sourires peut-être, et puis de découvertes. Donc, le mot prochain, il est depuis le début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, il est présent. Sous une forme, évidemment c'est un mot en hébreu et il y a un mot en grec, mais je veux dire c'est un mot qui se retrouve à peu près, pas vous dire de bêtises, je crois 101 fois dans l'Ancien Testament. Oui, c'est ça. Et 65 fois dans le Nouveau Testament. Il est traduit, donc il y a un mot qui est plésioa, et le mot réa en hébreu. Vous savez, comme la marque de pomme, de jus de pomme. Pour les Alsaciens, hein, je veux dire, c'est pas pour. Je ne sais pas s'ils avaient une intention biblique, mais bon. Donc. On parle déjà dans le Lévitique d'une phrase très importante, celui qui dit, cette phrase qui dit que la loi se résume en deux choses, aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme, etc., de toutes ses pensées, et ton prochain comme toi-même. Un passage du Lévitique dit à un moment donné un certain nombre de choses qu'on ne doit pas faire à son prochain, et finalement à la fin il dit, mais finalement comme je suis Dieu, il dit au verset 18 du Lévitique 19, ne te venge pas et ne garde pas de rancune contre les membres de ton peuple. Mais avant il y avait une dizaine de versets sur tout ce qu'il ne faut pas faire à l'autre, parce que la traduction de ces mots en hébreu qu'on a traduit par prochain, c'est aussi deuxièmement en autre, l'autre quoi. Et au passage, je ne peux pas m'empêcher de vous dire ce que disait Jean-Paul Sartre, un éminent philosophe français qui n'est pas forcément chrétien, hein, pas du tout même, et qui disait à la fin d'un de ses livres, l'enfer, c'est les autres. Donc pour nous, on va s'éloigner quand même de cette conception des choses, même si au fond de soi-même, est-ce que vous ne savez pas qu'à un moment donné, vous ne pensez pas que l'autre, c'est l'enfer. D'accord ? Et là, j'aurai une piste pour vous expliquer pourquoi et comment faire, pour éviter que l'autre soit l'enfer. Mais ne retenez pas ce passage de Sartre, c'est pas la peine de lire ses livres. Je dis ça parce que je les ai tous lus, parce que j'étais à un moment donné dans sa philosophie. Donc, dans le Lévitique, il est dit « Ne te venge pas, ne garde pas de rancune contre les membres de ton peuple ». C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Donc déjà là, on disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais le prochain, dans la conception de l'Ancien Testament, était souvent, et la conception que les Juifs en avaient entendue, compris, C'était celui de mon peuple, celui de ma tribu, celui de ma famille, de mon clan. C'est ça mon prochain. On verra que Jésus, il ne va pas répondre à la question du prochain, mais il va donner des exemples. D'accord ? Et quand on voit l'histoire qu'il y a donc dans... Enfin, le mot prochain qui est dans le Nouveau Testament, c'est par exemple dans Galates 5,14, car toute la loi se résume dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ou en Romains 13,8, n'ayez de dette envers personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. Donc là, il y a déjà quelque chose qui m'interpelle. Et en effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Romains 13,8. Voilà. Mais moi, ce que je lis et ce que j'ai constaté, c'est qu'avant de se poser la question « qui est mon prochain ?», j'ai d'autres mots qui me tombent tout de suite, c'est que dans cette phrase « tu aimeras ton prochain comme toi-même », il y a le mot « aimer ». C'est un verbe, c'est une action. Et il y en a un autre, qui c'est qui a remarqué qu'est-ce qu'il y a dedans ? Comment ? Toi-même. Alors je peux mettre moi, hein. On met tous moi pour nous. Alors dans moi, ou dans prochain, qui est le premier mot que j'ai mis là, je le rétrograderai, moi, en troisième mot. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a encore un premier avant, c'est évidemment Dieu, puisque il est dit dans le passage, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de toute et ton prochain comme toi-même. Donc tous ces mots-là, on va les passer en revue pour voir quelle est l'influence de l'un sur l'autre. Et le premier que j'ai mis, mais qui n'est pas dans ce passage, c'est paradoxe. Pourquoi ? Parce que ça me permet de vous donner quelques indications avant qu'on lise vraiment le texte, sinon vous n'allez pas l'entendre, parce qu'on a tellement l'habitude d'entendre la parabole, je devrais dire le récit du Samaritain, comme un récit... comme mythique, on n'a même pas besoin, on l'entend même pas, parce qu'on se dit, ben, on sait c'est le mot qu'il va dire. Alors du coup, on ne l'écoute plus. Il y a même des choses où on fausse le jeu, quoi. Donc moi, on va revenir dans le contexte après. Un paradoxe, si vous voulez, je peux vous l'expliquer comme ça. Je vais vous citer quelque chose qui ne vient pas de la Bible, mais qui vient de la sagesse juive. C'est un inconnu, mais qui était effectivement, un ancien. Voilà ce qu'il disait. « Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu pourrais ne pas t'égarer. » Ça vous parle ? « Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu pourrais t'égarer. » Waouh ! Tu pourrais ne pas t'égarer. Bon, ça vient d'une chose, c'est ça nous enseigne que la sagesse juive qui s'est faite depuis des millénaires, elle s'est faite depuis des millénaires la gardienne du questionnement. Et ce que Jésus, je voudrais attirer votre attention sur le fait que Jésus, quand on lui pose cette question, qui n'est pas la première question d'ailleurs, c'est la deuxième question que lui pose l'homme de loi, eh ben, il répond par des questions. Il l'incite à questionner. Et moi, je vous dirais une chose, c'est que je peux vous révéler la fin, comme dans un roman, vous savez, on veut savoir qui c'est qui a tué qui. Je dirais, je ne pourrais pas vous dire qui est votre prochain. Mais par contre, il y a un moyen de le savoir, mais il est individuel. Il faut que vous répondiez à la question vous-même. Et ça va encore plus loin, parce que vous n'allez pas pouvoir y répondre aujourd'hui. Mais quand vous serez en face de votre prochain, celui que Dieu vous désigne, vous saurez que c'est votre prochain. Et quelles sont les conditions pour que vous y arriviez? D'accord? Et certains d'entre nous ont déjà rencontré comme ça le prochain. Ils ont même travaillé pour ça. Mais là aussi, attention, quand on lira cette parabole, de bien comprendre aussi certains passages pour voir qu'il y a tout à coup une rupture. Bref, donc on va le lire, le passage, parce que sinon, à force, vous allez oublier qu'on parlait de ça. Voilà, je l'ai dans une version, je crois que c'est une version, il me semble que c'est une version Parole de vie, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, au verset 25 de Luc 10, 25 à 35. Un spécialiste des Écritures intervint alors pour tendre un piège à Jésus. Il lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans notre loi ? Comment la comprends-tu ? » Il l'implique. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ta pensée, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors, tu as bien répondu, fais cela, puis tu vivras. Jésus lui dit alors, tu as bien répondu, oui, pardon. Mais le spécialiste des Écritures, voulant se justifier, il demanda donc à Jésus, et qui est mon prochain ? Jésus répondit par un récit. Il répondit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait cette route. Quand il vit le blessé, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit, il vit le blessé, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il fut bouleversé. Il s'en approcha davantage, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans une auberge où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui. Lorsque je repasserai par ici, je te payerai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Et ce qu'il y a dans la suite du texte, c'est-à-dire là, ce que Jésus va dire, donc Luc, voilà, donc le lendemain, il prit 2 pièces, etc. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est Jésus qui parle. Lequel ? Il n'a pas dit, donc lequel de ces 3 ? Les 3, c'est qui ? C'est le samaritain ? Voilà, le prêtre ? Et puis le scribe. Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Mais il ne lui a pas dit, voilà, chaque fois que tu rencontreras sur la route entre Jéricho et Jérusalem un homme qui est blessé, c'est ton prochain. Mais il ne lui a pas donné tellement d'explications sur qui est son prochain. Donc on a besoin d'un éclaircissement. Peut-être d'abord un petit éclaircissement sur le texte. On pourrait remplacer « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» par une autre phrase « Maître, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ma vie ait un sens ?» Parce que là, je ne crois pas qu'il s'inquiétait pour après sa mort. C'est une formule qui est un peu compliquée à, comment dire, à intégrer, à actualiser. Après, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie de l'impliquer. Il lui dit, qu'est-il écrit dans notre loi ? Comment la comprends-tu ? Et puis on a cette dernière provocation, parce que cet homme savait, en fait, connaissait à fond la parole. Il n'y a pas de problème. Et il était dans quel ordre par rapport à la hiérarchie du temple ? Il était troisième. Il était après le scribe, après le prêtre. C'était juste un homme de loi, une sorte de conseiller qui enseignait aussi. Donc il enseignait et il pose ses questions à Jésus. Voilà, c'est un peu étrange. C'est comme s'il voulait se justifier, c'est-à-dire qu'il dit, ben, oui, j'aimerais bien faire ça, mais je ne sais pas qui est mon prochain. Et après, on a ce mot au verset 31, par hasard. Alors sachez qu'entre Jéricho et Jérusalem, il y avait beaucoup de passages, et qu'on y allait rarement à l'époque, dans ce contexte, on y allait rarement seul. Pourquoi il y avait toujours ce risque des brigands, des attaques? Donc c'est vraiment aussi une histoire un peu étrange, puisque finalement, ils voyagent tous seuls. Donc c'est un prêtre qui descend. Le prêtre, il passe de l'autre côté et il s'éloigne. Mais à aucun moment, on sent un jugement de Jésus sur ces hommes. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces hommes? Pourquoi ils ont fait ça? Pour une raison toute simple. Ils obéissaient. Oui, c'est choquant, hein? Mais ils obéissaient. Ils obéissaient à quoi? À la loi. La loi leur interdisait tout simplement de toucher un homme qui serait éventuellement mort, voire un homme dont ils ne savaient pas qui c'était. Peut-être c'était un non-juif. C'est pas dit dans le texte, mais il y a toutes les chances pour que ça soit quand même un juif. D'accord ? De même, un lévite, donc le lévite, c'était juste après le prêtre, c'est quelqu'un qui faisait un service au temple. Il passe de l'autre côté de la route aussi, pour les mêmes raisons. Alors on a vite jugé en disant c'est des légalistes. Alors moi je vous prends au mot, je vous raconte. Vous savez ce maire en Bretagne, là, qui a de maire de Loudéac, ou je ne sais plus quelle commune, là, qui a fait un arrêté pour interdire qu'on mette des pesticides du glyphosate à moins de 150 mètres d'une habitation. Je ne pense pas que c'est un homme qui voulait désobéir à la loi pour le plaisir de désobéir à la loi. Vous êtes d'accord? À un moment donné, il a pensé à ses prochains, ses administrés dans l'occurrence, en disant ben, « je vais faire quelque chose qui est illégal ». Et d'ailleurs, la preuve, c'est que le tribunal l'a retoqué. Il va en appel maintenant, mais il fait quelque chose. Donc vous voyez la différence entre... on n'a pas beaucoup le temps de s'étendre là-dessus, mais ça mériterait bien une heure de parler de... Jésus a montré la même chose quand, par exemple, il a guéri un jour de sabbat. Il y a bien une loi sur le sabbat, et Jésus a bien dit « je viens pour accomplir toute la loi ». Jésus n'est pas venu en disant « la loi, ça n'existe plus ». Ce n'est pas vrai. Donc, il y a une contradiction là, une sorte de paradoxe. Ce paradoxe, c'est qu'effectivement, on doit obéir à la loi, de façon générale dans notre vie, parce que cette loi, vous en connaissez les principes. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras... Alors, comment se fait-il qu'à un certain moment, il y a une possibilité de désobéir à la loi? C'est ce que fait le Samaritain. Ce Samaritain, il faut arrêter de penser que c'est, voilà, c'est... Ouais, comme on dit beaucoup, on dit c'est un bon Samaritain, quoi. Le Samaritain, c'est synonyme d'un homme bon... Non. Pour les Juifs, c'était vraiment des gens exécrables. C'était un ennemi. C'était quelqu'un... qui adaptait les textes bibliques, la loi, en avait fait des choses différentes et était vraiment honni par ce peuple. Donc imaginez l'auditoire de Jésus, c'était un auditoire juif. Qu'on dise, voilà, il y a un Samaritain qui s'approche, pour eux, c'est qu'est-ce qu'on pourrait dire comme... J'avais trouvé un pasteur qui avait écrit un livre là-dessus, mais c'est complètement maintenant décalé dans le temps, puisque c'était à propos de... Sur une histoire comme ça, il avait fait une sorte de pastiche et il avait trouvé que c'était des bons Français qui rencontraient des gens du FLN qui aidaient des blessés. Quoi. Enfin bref, il y avait une histoire aussi d'opposition, quoi. Un moment où c'est l'ennemi qui fait quelque chose, quoi. Alors lui, qu'est-ce qui lui arrive? Il est bouleversé. C'est tout ce qu'on sait. Il s'en approche. Il fait ce qu'il peut, les premiers secours. Il l'emmène ensuite à l'auberge, où il prend encore soin de lui. Et le lendemain, il passe à autre chose. Il passe à ce qu'on fait beaucoup aussi. Il passe à un service qui est prévu. Si vous l'emmenez à l'hôpital, c'est des médecins qui vont s'occuper de lui. C'est l'endroit où il y a des gens qui font ça comme service, comme métier. Donc, on pourrait dire, mais plutôt que d'aider les gens qui sont au bord de la route, il y a des services qui sont faits pour ça. On appelle le SAMU, le SAMU vient, il prend, etc. Donc, vous voyez qu'il y a aussi une différence entre s'occuper de son prochain et dire, mais on est organisé dans la société pour que notre prochain il soit aidé. Vous voyez la différence? Mais à un moment donné, on doit aussi passer à ça. La preuve, c'est qu'il va donner 2 pièces d'argent pour que quelqu'un s'occupe de lui pendant ce temps-là et qu'il fasse ce service. Un service payant, c'est normal, etc. Et puis enfin, dernière remarque par rapport à ce texte. Qui est le prochain finalement qui est désigné là? Pas la réponse de l'homme de loi. C'est qui le prochain dans le texte? C'est le Samaritain qui est le prochain. Donc là, on vient à un sens aussi du mot prochain. C'est que le prochain, c'est quelqu'un qui vous a déjà aidé. C'est bizarre. Donc ça voudrait dire, est-ce que ça a comme sens, je dois aider quelqu'un qui me rend service? Oui. Donc il y a plus de questions que de réponses dans ça. Mais maintenant, moi, j'ai voulu remonter à la phrase complète, c'est-à-dire, plutôt que de répondre comme ça à la question, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je connais bien un thérapeute chrétien qui est suisse. Mais vraiment, on a travaillé jadis ensemble, et puis franchement, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a travaillé sur une autre idée par rapport à la question de l'amour du prochain. Et lui, il travaille sur ça. Alors, c'est un dessin que j'ai fait avant. Vous voyez ce dessin où vous avez un tuyau. Alors pour mon tuyau est un petit peu. Là, il a grossi en sortant, là. C'est comme ça. Hein. Ici, je mets tu, donc l'autre, le prochain. Et là, je mets moi. Pour que ça fonctionne, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est bien dit toi-même. Il faut que l'amour de Dieu m'irrigue moi, qu'il n'y ait rien qui empêche que l'amour de Dieu rentre dans la tuyauterie, et qu'ensuite elle puisse être redistribuée, et qu'il n'y ait donc rien qui l'empêche de sortir là. Déjà, vous avez pour certains d'entre vous qui ont peut-être... qui travaille sur la relation d'aide, je veux dire qu'il y a forcément des questions qu'on peut se poser en disant que si il y a quelque chose qui m'empêche ici de faire sortir cet amour-là, ou si moi je ne m'aime pas moi-même pour une raison X ou Y, On ne peut pas aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc il y a vraiment là une clé. Et le troisième X, c'est qu'effectivement, est-ce que je vais recevoir de Dieu tout l'amour qu'il me faut ? Ça vous parle ? Et on comprend mieux pourquoi Jésus est circonspect et répond à cet homme avec un fait, une histoire réelle, une histoire qui est tout simplement ancrée dans la réalité. Et cette histoire, pour moi, elle montre plutôt que le vrai prochain n'est pas celui de nos systèmes. Sinon, il faudrait qu'on aille aux urgences des hôpitaux et puis qu'on dise, voilà, là, on n'a que des gens qui sont blessés. Bon, ils ont besoin de personnel, mais je ne suis pas sûr qu'on soit, nous, aptes à faire ce qu'il faut. Et toutes les sociétés de secours qu'on a, c'est bien, parce qu'on est devenus de plus en plus nombreux. Ça existait déjà à l'époque. N'oublions pas que cette histoire se met dans un contexte où, de toute façon, il n'y avait rien qui existait pour les gens qui étaient blessés. Donc ce n'est pas celui de nos systèmes. Le prochain, le vrai prochain, ce n'est pas celui de nos pensées, de nos goûts ou de nos dégoûts. On pourrait dire, il faut que j'aille vers les gens que vraiment je ne peux pas blairer. C'est certainement que le Seigneur veut que j'aille vers eux. Non. Il respecte notre liberté et en plus de ça, il veut quoi ? Il veut que là, ça passe bien, son amour, qu'il aille d'abord chez nous. Pour que nous soyons... Personne ne peut aider un autre s'il ne s'aime pas soi-même. Vous connaissez des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes et qui peuvent aller aider les autres ? Que tout soit libre là et qu'on n'ait évidemment rien à pardonner, qu'on n'ait pas d'a priori. Si j'ai un a priori et que je dis, moi je ne peux pas aimer les gens qui viennent de là ou de là, ou qui ont telle pensée. J'ai pensé à ça hier parce que j'ai croisé quelqu'un qui m'a un peu irrité parce qu'il avait... J'aime pas du tout les hommes qui ont une chevelure, mais vraiment comme une très longue, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Il y en a ici, là, peut-être. Je parle. Non, non. C'était pas du tout dans ce genre-là. C'était vraiment, tu vois, comme juste presque jusque dans le bas des reins, quoi. Et je me disais, là, il y a un truc qui me choque. Là, j'aurais du mal pour parler avec lui. Et en plus, il avait vraiment pas une tête de fille, quoi. Il avait une tête vraiment de. Mais bon, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? On a des a priori idiots. Et je me rappelle d'histoire de Corrie ten Boom dans l'avion, qui était à côté d'un type que ne pouvait pas blairer. Elle raconte cette histoire parce que c'était un gars qui était, genre représentant de commerce, suant, fumant comme un pompier. Bon, à l'époque, on pouvait encore dans les avions. Et puis, apparemment, il voulait absolument engager la conversation. Et elle était crevée parce qu'elle s'était tapé 2 jours de prédication, de... Et puis, elle reçoit dans son cœur que « Non, non, il faut que tu parles à cet homme parce qu'il a quelque chose... C'est ton prochain, quoi, en quelque sorte. » C'est comme ça que ça se passe. Et elle a râlé intérieurement. Elle a dit à Dieu « Oui, mais tu te rends compte, je suis fatigué. » Enfin, bref, elle a commencé à discuter. Et finalement, il lâchait pas le Saint-Esprit. Et donc, et puis c'était effectivement une histoire incroyable. C'est-à-dire que cet homme, il avait besoin de Christ, quoi. Et il y a eu une conversion dans l'avion pendant les 2-3 heures qu'a duré la... Donc pour vous dire que, voilà. Donc, le vrai prochain, c'est celui qui nous est donné. Donc ne vous inquiétez pas, il vous sera donné. Alors, il ne sera peut-être pas ce que vous voulez, mais bon. Il vous sera donné. Celui non pas que nous choisissons, mais celui qui nous choisit. D'accord ? Donc ça nous interpelle vraiment sur est-ce que je suis branché avec le Seigneur pour recevoir de lui l'amour dont j'ai besoin ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche que... C'est un signe tout simple, si on ne s'aime pas soi-même, c'est que quelque part, on n'est pas rempli de l'amour de Jésus, c'est qu'on ne l'accepte pas cet amour. Donc on ne va pas rencontrer un prochain à qui on pourra faire du bien, puisqu'on ne peut pas lui passer l'amour de Dieu. Cet amour qui a besoin qu'on soit complètement libre, qu'on puisse donner vraiment des choses que le Saint-Esprit va tout à coup nous... et qu'on va accepter de faire peut-être des sacrifices sur le moment. Non, si on ne s'aime pas soi-même, on n'aimera pas l'autre. Et enfin, si on n'aime pas non plus, si on a des a priori, si on... Je ne sais pas, il y a des gens qui vont être... qui diront, moi, les Esquimaux, je ne peux pas les blairer. Bon, très bien. Je dis ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici. C'est pour éviter de stigmatiser quelqu'un, parce que c'est quand même toujours dangereux. Il n'y a pas d'Esquimaux dans la salle. Voilà. Moi, j'aimerais terminer vraiment par une prière. D'abord, pour que vous ne demandiez pas à quelqu'un votre chemin, quelqu'un qui sait où aller, qui sait quel est le prochain que vous allez avoir, pour que vous puissiez vous égarer, en quelque sorte, c'est-à-dire rester dans l'attente de ce que le Seigneur, disponible pour ce que le Seigneur veut faire par rapport au prochain. Donc vous allez être déçu parce que la question, on n'y répond pas. On ne dit pas qui est mon prochain. Mais ça peut être, alors là, très général, tout le monde. Quelqu'un de proche comme quelqu'un de loin. Il va vous être donné. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu vous aime aussi. Il n'a pas mis un obstacle tel que vous allez dire, c'est impossible que je puisse faire quoi que ce soit. D'accord ? Mais c'est aussi, et là, je pense que nous devons faire attention, le prochain, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est en Afrique, qui souffre. Ça peut l'être, on est d'accord. Mais il est à notre porte, on ne le voit peut-être pas. Mais attendez-vous au Seigneur. Et vérifiez que vos tuyauteries est bonne. Bon, c'est tout simple, hein. Ah, ça te fait rire, hein, Béatrice. Donc, prions. Père éternel, révèle-nous ton amour. Apprends-nous à nous laisser aimer par toi, afin que nous puissions donner cet amour à notre tour au prochain que tu auras mis sur notre chemin, accomplissant ainsi ta volonté pour nos vies. Depuis, dans toute la parole, Seigneur, tu expliques que la loi se résume à t'aimer toi, de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées, et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pardon, Seigneur, de souvent tomber dans les ornières de ces textes qui sont un peu usés ou qu'on a oubliés, qu'on a transformés en quelque chose d'édulcoré ou un message philanthropique. Pardon, Seigneur, de vouloir substituer à cet amour du prochain un service qui est certes nécessaire, mais qui ne remplace pas complètement ce que tu veux faire. Touche notre conscience, Seigneur, touche notre cœur. Et nous ne voulons pas juger ceux qui pensent obéir à la loi, Nous voulons nous concentrer sur ce que tu veux faire, Seigneur, avec l'amour que tu nous donnes. Amen. Voilà. Peut-être que vous lirez ce texte d'une autre façon.